Même audio. Vous ne l'avez pas vu? Vous pouvez l'entendre.
Rebonsoir, on va peut-être laisser Laurie et Lucille reprendre leur souffle quelques instants. Antoine Grand, à ma droite, est le directeur du musée de la résistance et de la déportation, et ce qui va nous permettre peut-être d'avoir un éclairage sur certains éléments historiques. Voilà, on va essayer de prendre quelques instants pour échanger et puis ensuite faire circuler un micro pour que vous puissiez vous aussi participer à l'échange et poser des questions aux uns ou aux autres. Laurie et Lucille nous ont amené très très loin en arrière. Tant dans le temps que je pense au niveau d'humanité. Gaëtan, pourquoi, quelle démarche pour un metteur en scène de choisir Charlotte Delbault et de travailler autour de ses textes et de mettre en scène ?
Le choix de Charlotte Delbault, il s'est un peu imposé à moi, c'est-à-dire que la pièce est en travail depuis 3 ans sur l'adaptation des textes. Laurie était à l'origine du projet. Moi, je suis arrivé par la suite. J'ai découvert Charlotte Delbault que je ne connaissais pas. J'ai été époustouflé déjà par ses textes, la poésie qu'elle peut mettre à l'intérieur. J'ai été aussi bouleversé par ce qu'elle raconte, parce que je pense qu'on n'a pas, la conscience réelle de réellement ce qui s'est passé, et je trouve qu'elle le décrit extrêmement bien. Voilà, et mettre en scène ça, c'est, je pense, la démarche. C'est un devoir de mémoire, de se rappeler, d'où le partenariat que nous avons fait ensemble avec Antoine et avec Amélie, avec les jeunes, donc les collégiens, leur présenter, parce qu'ils n'ont pas... Nous, à 30 ans, on a connu des grands-parents qui ont vécu la guerre, et aujourd'hui, les jeunes des années 2000, ils n'ont presque plus personne pour leur raconter. Et donc, on vient, nous, leur présenter un peu... la réalité des choses, du moins de ce qu'a pu vivre Charlotte à Birkenau.
Merci. Alors, cette question de mémoire, on va en parler avec Antoine. Avant, j'aurais bien aimé demander à Laurie, à Lucille, comment, quand on est une jeune femme en 2023, comédienne, on aborde le personnage de Charlotte Delbault et comment on s'imprègne de ses textes pour les interpréter.
Bon, alors déjà une chose, Charlotte Delbault, quand elle est partie dans les camps, elle avait 25 ans. Gaëtan a peut-être 30 ans, mais nous, avec Lucille, on a 25 et 26 ans. Donc, en fait, c'est nos préoccupations d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle était ultra engagée politiquement, elle était résistante, communiste, et elle se posait les mêmes questions qu'on se pose aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle s'est engagée tout de suite dès que... dès qu'il y a eu en 70 le négationnisme, elle était vraiment très très engagée politiquement. Et en fait, quand on voit aux informations tous les jours, et je pense qu'on se questionne vraiment énormément sur ce qui se passe dans le monde, les guerres, que ça continue encore, bon, je fais tout un texte là-dessus, mais c'est pas pour rien, c'est-à-dire que c'est des choses qui reviennent et encore, et en fait elle est pas si loin que nous, elle est pas si loin de nous. Et donc, on s'est vachement aussi, on s'est vachement documenté sur les enfants nazis, un bouquin écrit par le commandant Huss. Il y a aussi Nuit et brouillard d'Alain René, je pense que vous connaissez à peu près tous, qui peut être très choquant. Je sais que c'est un des films qui m'a le plus choqué parce que on s'imagine plein de choses. Les films racontent plein de choses sur la Seconde Guerre mondiale, mais là, de voir des images réelles, même en préparant un spectacle, on s'imagine plein de choses. Mais une fois qu'on met des images très précises et des mots sur ce qui s'est passé réellement, ça devient un tout autre univers, en fait. Lucille, à toi.
Lucille.
Bonjour. Non, moi, il y a un truc qui m'a assez bouleversée, c'est que dans le texte de Charlotte Delbault, on a presque l'impression qu'elle raconte de manière objective ce qui s'est passé. Souvent, elle dit les femmes, elle ne dit pas nous. Donc il y a quelque chose, vous demandiez comment est-ce qu'on l'aborde, il y avait quelque chose de l'ordre de... Mais c'était très objectif. Et dans sa poésie, on se rend compte que c'était terrible. On se rend compte que le groupe, c'est grâce au groupe en fait qu'elles ont réussi à survivre. C'était assez incroyable quand là, elle revient avec un livre et chaque membre de la bande en fait a découpé vraiment une tranche de son pain et une ration de pain. À ce moment-là, c'était quelque chose de tellement important. C'était chaque soir, ils étaient juste contents d'être en vie. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'individualisme dans ce monde, en tout cas aujourd'hui. Et je trouve que cette pièce, même si on n'est que deux sur un plateau, montre que c'est un groupe en fait, qui a fait qu'elle a survécu et elles ont été 49 sur 230. C'est le chiffre le plus élevé qui sont revenus. Enfin, c'est quand même c'est incroyable. Donc, et même là, on parle des cheveux. Elles ont été déshumanisées. On leur a coupé les cheveux. On les a tatoués. On les a mis nus. Elles ont attendu. Et moi, j'ai 25 ans, j'ai les cheveux longs et je suis devant vous. Et il y a y a une vraie dimension où on se rend compte de la chance qu'on a et à quel point c'est important de se faire son propre avis, de prôner le groupe et surtout de rester solidaire. Et ça, je trouve que c'est pour ça qu'on a fait cette pièce, en fait. Pour que ça ne se reproduise pas, en fait. Vraiment. Voilà.
Voilà, et avant de me tourner vers Antoine, je vais peut-être préciser le livre qu'évoquait Laurie et dont on parlait tout à l'heure avec Gaëtan. C'est Commandant d'Auschwitz, qui a été donc rédigé par Rudolf Hess, le commandant d'Auschwitz donc à l'époque, lorsqu'il était en détention juste avant son exécution. Voilà, et c'est également à partir de ce livre, si vous avez envie de le lire, voilà, que Robert Berle, le romancier, a construit l'histoire de son roman La mort est mon métier. Antoine, on a évoqué longuement, Laurie et Lucille ont interprété La Déportée, Charlotte Delbos, La Déportée. Qui était Charlotte Delbos? Quel est le parcours qu'il a brièvement, qu'il a conduit à la déportation?
Brièvement. Que c'est dur de parler après Charlotte Delbos. Juste, moi je suis dans le mauvais rôle de l'historien de cette période. Le texte de Rudolf Heuss dont on parle n'est pas un texte neutre. C'est un texte soumis, obligé par les soviétiques avant sa pendaison. Et Rudolf Heuss, dans son récit, va chercher des éléments pour se disculper dans lesquels et en fait, si je me permets ce détour, hein, c'est pour revenir au texte de Charlotte Delbos et répondre à ta question quand même, Jean-Luc, c'est que toute représentation de la déportation, des déportations, sont des points de vue et parle de quelque part. Et Charlotte Delbos, vous l'avez dit, et dans ce texte-là, qui est un des six textes majeurs qu'elle a écrit, elle en a écrit très nombreux, mais sur sa déportation, avec des formes très différentes. Charlotte Delbos, dans ce texte-là, elle parle en tant que femme politique déportée. D'ailleurs, la présence du corps est extrêmement puissante dans ce texte-là, extrêmement moderne pour cette époque de rédaction, c'est-à-dire l'abandon d'une forme de pudeur par rapport à elle-même, dans un récit qui se veut à ce moment-là autobiographique, même si elle prend plein de détours, plein de miroirs, plein de reflets pour en parler. C'est parce que Charlotte Delbos, ce dont elle témoigne, et même davantage, ce qu'elle veut décrire dans ce texte-là, vous avez dit description objective, et finalement c'est peut-être un des texte est plus objectif. Non, mais c'est peut-être un des textes les plus objectifs sur la déportation qui soit, indépendamment de certaines représentations. Enfin, beaucoup de travaux tournent autour de ça. Et elle raconte l'histoire d'une femme politique déportée. Déportée dans un camp qui est le plus grand camp de concentration, mais qui est à côté du plus grand centre de mise à mort. C'est Birkenau. Charlotte Delbos, elle est là-bas parce qu'elle est une jeune femme communiste arrêtée avec plus d'une centaine d'autres au début de l'année 1942, dont son compagnon d'alors, Georges Dudac, qui lui est fusillé au Mont-Valérien. Georges Dudac, il est fusillé au Mont-Valérien parce que c'est un homme. Et que le code militaire allemand prévoit que les hommes seront fusillés lorsque les femmes doivent être déportées, soit pour être exécutées en Allemagne, soit pour être déportées. Donc, dans ce texte-là, Charlotte Delbos, elle parle en tant que déportée politique, mais en même temps, elle établit un texte qui est un témoignage, mais qui est aussi un texte à charge. Dans la Marie-Claude dont elle parle souvent dans ce texte-là, c'est Marie-Claude Vaillant-Couturier. Marie-Claude Vaillant-Couturier, qui est déportée par ce convoi des 31 000, qui s'appelle convoi des 31 000 parce que c'est le numéro de matricule par lequel elles sont enregistrées, d'où le nom de Convoi des 31 000, composé quasiment exclusivement de femmes communistes ou proches du mouvement communiste. C'est des femmes qui ont vu, durant une année, leurs camarades, leurs compagnons, leurs amis, leurs camarades de lutte, de l'organisation politique de la résistance communiste, de ce qui s'appelait alors le Front National, parce qu'ils sont des militants du Front National. N'oublions pas les réutilisations de noms aussi. Ce sont des femmes qui ont vu leurs hommes être conduits au Mont-Valérien pour être fusillés comme otages parce que bolcheviques, parce que judéo-bolcheviques. Et ce dont parle Charlotte Delbo, c'est de ça. Et pour répondre à ta question, de quoi est-ce qu'elle témoigne en tant que déportée ? C'est le sort des déportés politiques, mais en même temps, Marie-Claude Vaillant-Couturier, dont il est question, qui va d'ailleurs, sur ses carnets, ramener le Chant des Marais, que vous entendez à plusieurs fois, qui est une place très importante dans ses récits. Marie-Claude Vaillant-Couturier, elle témoigne à Nuremberg, à la fois de sa déportation, mais de ce à quoi elles assistent lorsqu'elles sont à Birkenau, qui est l'extermination des Juifs d'Europe. Et dans leurs témoignages, dans les textes qu'elles écrivent, elles témoignent de leur parcours à elles, mais elles font aussi un récit accablant pour apporter des preuves du génocide auquel elles assistent, auquel elles ne sont pas soumises parce qu'elles sont une déportation politique et pas dans le cadre de la solution finale. Désolé, c'était un long détour pour répondre à ta question.
Alors, on pourra revenir dans un deuxième temps sur la suite du parcours de Charlotte Delbos, puisque effectivement, femme politique, elle l'est jusqu'au bout. Et ça sera intéressant de voir comment. Vous avez peut-être à ce stade envie de réagir ou de poser des questions aux uns ou aux autres. Amélie a un micro qu'elle peut mettre à votre disposition et faire circuler. Et je vous demanderai de parler vraiment bien en face du micro. Ça me permet de présenter un compère qui n'a pas été cité, qui est Luis Mendes de l'association Memodio, puisque la soirée est enregistrée, fera l'objet d'un podcast sur le site de Memodio. Donc, question, micro, Amélie est prête à bondir. Oui, madame, merci.
Une première question, c'est à quel moment a-t-elle écrit ces livres que vous citez, ces poèmes, puisque moi, je ne la connaissais pas.
En fait, quand elle est rentrée de Birkenau, elle est partie 2 ans, donc jusqu'en 1947, en Suisse pour se rétablir dans un centre de rétablissement. Et elle a écrit une majorité de ses livres là-bas. Donc en fait, c'est vraiment à la sortie, parce qu'il était très difficile pour elle de parler. Elle a tout mis sur écrit. Voilà, donc tout a été... Enfin, les textes dont on traite ce soir ont été écrits entre 46 et 47.
Donc très rapidement, ce qui est quand même assez surprenant, puisque beaucoup de déportés se sont tus pendant des années et ont commencé à parler que dans les années 70. Donc est-ce que c'est parce qu'elle a un message très politique, très fort et qu'elle est très engagée, notamment en tant que communiste, qu'elle écrit aussi vite ?
Les déportés parlent tout de suite. Les déportés écrivent tout de suite. Les procès, les grands procès ont lieu tout de suite. C'est une construction de société, c'est une construction de régime collectif qui n'entend pas ces récits-là que de croire que les déportés n'ont pas parlé. Il y a des cérémonies, y compris autour de la solution finale, c'est-à-dire de rescaper du projet génocidaire. C'est-à-dire que la grande masse des gens qui rentrent de déportation sont des déportés politiques, déportés dans des camps, comme il y en a à Birkenau, comme il y en a à Auschwitz, qui sont des espaces concentrationnaires de travail où on meurt d'épuisement, mais où il n'y a pas d'extermination systématique à l'arrivée. Mais y compris du côté des populations déportées dans le cas de la solution finale, qui à 93% d'entre eux, lorsqu'ils arrivent vers les centres de mise à mort, sont immédiatement assassinés. C'est-à-dire que c'est une infime portion qui sont envoyés vers le travail dans un seul camp, qui est le seul camp où on tatoue d'ailleurs, qui est le camp d'Auschwitz-Birkenau. Ils parlent tout de suite. Ils font des cérémonies tout de suite. Les premiers récits de déportation, que ce soit la nuit de Wiesel avec une préface de Mauriac, que ce soit ces textes de Charles Delbo, la déportation est au cœur de Nuremberg. On ne crée pas uniquement sur la base de la Shoah, mais qui a un impact extraordinaire pour la création de l'État d'Israël dans les débats internationaux au sortir de la Seconde Guerre mondiale, parce qu'il y a eu la Shoah. La déportation, on en parle. Sauf que les régimes qui se mettent en place, le récit politique qui se met en place, parce que c'est un récit de mauvaise conscience, vous évoquez à très juste titre Nuit et Brouillard. Aujourd'hui, il y a une espèce de jeu d'historien de dire que Nuit et Brouillard, c'est plein d'infos erronées, c'est la pédagogie du choc. Effectivement, à un moment donné, on voit un bulldozer qui pousse des cadavres et il est présenté dans le commentaire comme un bulldozer conduit par des SS. Non, alors que ce sont des Britanniques à Bergen-Belsen pour éviter les épidémies. Sauf que, en fait, Nuit et Brouillard, pourquoi est-ce qu'il fait date à ce point-là dans les mémoires collectives? Parce que c'est le retour sur le devant de la scène des images de la déportation. C'est-à-dire que ce n'est plus seulement un récit entre déportés, entre rescapés, entre militants. Mais, par contre, là où vous avez raison, là où il y a une formation politique extrêmement forte dans le discours de Charlotte Delbault, c'est qu'elle n'est, même si dans tout ce qu'elle va écrire, il y a un vrai questionnement littéraire, c'est-à-dire comment est-ce que l'écriture peut donner à voir, par plein de biais, directement, indirectement, par la fiction, par le témoignage, eh bien, Charlotte Delbault, elle est dans une forme de structuration politique, elle apporte des preuves, elle établit des faits. Et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver beaucoup dans les récits de déportation de militants politiques. Mais la question que vous posez, je la comprends. Mais en fait, le penser qu'il n'y a pas eu de récit au retour de déportation, c'est que finalement, on se situe nous-mêmes, et c'est normal, dans une production de société. Et ils parlent, ils se réunissent, il y a même des expositions. Ce récit de Eus qu'on a évoqué en est la meilleure des démonstrations. Le soviétique lui demande d'écrire sur un papier exactement ce qui s'est déroulé. C'est-à-dire que la connaissance, elle est présente. Mais ça doit nous interroger de qu'est-ce que l'on fait d'une réalité que l'on connaît. Et ça, on est dans des questions qui, aujourd'hui encore, doivent nous animer.
Alors, vous intervenez quand vous voulez. Je vois personne trop décidé. J'en profite pour poser une question qui me vient à la suite d'Antoine pendant que vous préparez vos propres questions. Et je vais me tourner vers Gaëtan, mais également vers Lucille et Laurie, enfin celui ou celle qui souhaite. Bon, d'une part, peut-être pour préciser qu'aucun de nous ne reviendra. Le titre de l'ouvrage d'où est tirée la pièce est un titre qu'elle a emprunté dans un poème d'Apollinaire et pour exprimer l'idée que les rescapés ne sont jamais vraiment revenus, d'où la question et l'importance du témoignage. Et peut-être que tout à l'heure, on pourra demander à Antoine aussi de parler des enjeux de mémoire. Il y a également, à partir de ce livre, une pièce qu'elle a construite elle-même. Alors, je ne sais pas lequel de vous, Gaëtan.
Oui, alors déjà, je vais rebondir sur ce que tu disais sur le vers d'Apollinaire. C'est aucun de nous ne reviendra, et Laurie le dit très bien dans le texte où elle est assise et qu'elle s'agace. elle dit clairement qu'elle est morte à Auschwitz. Donc cette femme qui est revenue des camps, en fait, son âme est restée là-bas. Son humanité est restée là-bas. Quand on leur demande de laisser leurs affaires là-dedans, qu'on leur tatoue un numéro et qu'on leur donne un numéro en calicot à coudre sur la manche, à partir de là, on vous déshumanise complètement. Pour rebondir sur la pièce, alors Charlotte Delbault a fait une pièce à partir de juste du livre « Aucun de nous ne reviendra ». Nous, on s'est inspiré de trois livres. Donc il y a « Le convoi du 24 janvier »,« Aucun de nous ne reviendra » et « Auschwitz 1 et après ». C'est pour ça qu'on a décomposé la pièce en deux. On a toute toute la vie à Auschwitz. Et ensuite, après 1947, donc comment on se remet de tout ça. Donc on comprend que la première fois qu'elle revoit un homme, qu'elle fait des combats dont nous parlera Antoine après, elle fait des combats tout au long de sa vie pour défendre la liberté des hommes et que ces choses-là ne recommencent pas. Et voilà, donc Charlotte Delbault, elle s'est complètement inspirée d'Aucun de nous ne reviendra. Nous, on a été un peu plus loin, où on a voulu parler de l'après.
Même audio, une mémoire sonore.
Est-ce que quelqu'un veut réagir, veut intervenir, poser une question? Madame, merci.
une autre question qui est comment les collégiens réagissent-ils à la pièce ?
Alors, non, cet après-midi, on a fait une première et la plupart avaient déjà abordé en classe la Seconde Guerre mondiale. Et déjà, Gaëtan est intervenu auprès de ses classes quand ils ont fait la visite au musée de la Résistance. Donc, eux connaissaient. Sauf que sur les quatre classes qu'il y avait cet après-midi, il y avait une seule classe qui n'avait pas abordé ce sujet-là. Et ça a été... Ils étaient plutôt calmes, mais cette classe-là, ils discutaient un peu entre eux, ils parlaient les uns entre les autres, il y en a qui dormaient. Donc en fait, c'est un super exercice parce que c'est justement aussi le but de notre projet, c'est de leur montrer que ce n'est pas seulement des faits en histoire qu'ils apprennent avec leurs professeurs, mais que c'est aussi des histoires, des vies qui sont là. Mais c'est vrai que c'est un... ils ne se rendent pas compte. C'est des clés qu'on leur donne en fait, pour plus tard. Quand ils commenceront à se poser des questions sur la politique, sur avoir un esprit critique, c'est des clés qu'on leur donne pour plus tard. On sait qu'à 14 ans, ça commence à émerger, mais ce n'est pas encore tout à fait là.
Il y avait quelques éléments perturbateurs, mais bon, ils ont 14 ans, donc... Mais sinon, ça s'est très bien passé. C'était hyper intéressant de voir les questions, parce qu'ils avaient une petite fiche avec des questions, donc ils avaient tous réfléchi, je pense, avec leur professeur, aux questions à poser. Et ce qui était aussi beau, c'était de voir, peut-être, là on parlait d'éléments perturbateurs, mais c'était trois personnes, de voir qu'il y a des moments où il n'y avait plus un bruit, quoi. Et ils ont 14 ans, et je pense qu'ils ne se rendent pas compte. Mais pendant le débat, ça a fait tilt. Quand on leur a expliqué, quand on est rentré, quand on a essayé de comparer, même si, mon Dieu, la comparaison est grande, mais par exemple, le harcèlement dans les écoles. Encore une fois, il faut prendre des pinces avec des pincettes, ce que je dis, mais on leur a en fait donné des exemples, on leur a dit avec l'état actuel des choses, ce qui se passe dans le monde. Et il y a eu du répondant, il y a eu des enfants qui se sont intéressés et qui ont vraiment essayé de comprendre. Et même si c'est une scène, c'est déjà ça. Déjà, quand ils sont sortis, il y a une scène qui leur a percuté. Ou même s'ils en ont parlé en disant « Ah, j'ai pas du tout aimé ça, toi, t'en as pensé quoi ?» Bah moi, rien que ça, ça ouvre déjà le débat et ça crée de la discussion. Et c'est quand même génial parce qu'ils ont que 14 ans, quoi.
Je vais me tourner vers Antoine, directeur du musée de la Résistance et de la Déportation. Je voulais simplement... Il y a un autre écrit, je crois, 6 ouvrages en tout, hein, c'est ça ? Plus que ça, voilà, qui s'appelle Une connaissance inutile. Et à la fin, c'est plutôt sous forme de vers, et elle parle de l'amour pour son mari, qui est, on pourra peut-être demander à Antoine aussi de préciser ça, enfin, qui indiquait qu'il était fusillé au Mont Valérien, et puis des séjours, sa déportation, son passage dans les camps. Et l'un des derniers vers, c'est « Je reviens d'au-delà de la connaissance ». Donc elle pense que les connaissances qu'elle a pu rapporter de cette expérience ne peuvent pas servir, finalement, d'après ce qu'elle dit, parce que elles sont hors de la vie, hors de ce qui peut être conçu, compréhensible, etc. Et effectivement, c'est un des enjeux des questions de transmission, comment amener, et notamment les plus jeunes, à se positionner sur des choses qui sont tellement inconcevables. Je te laisse avec ça.
Je vais commencer par les plus jeunes. Très souvent, quand on travaille sur ces thématiques, et c'est redoublé dès lors qu'on touche à... Voilà, ce qui n'est pas directement le cas, même si on est à Auschwitz, je l'ai dit, c'est un récit d'une déportée politique, pas d'une déportée par mesure de persécution raciale, même si elle va en témoigner, comme Marie-Louvain Couturier. Souvent, la question est posée de quelle est la réception par les jeunes. Moi, ça fait 15 ans, ou un peu moins, 13 ans, que je travaille dans le secteur de la mémoire. Rares, vraiment très rares, ont été les moments de rejet, de réactions violentes. La majorité des actes antisémites commis en France le sont par des adultes. Donc ça veut dire qu'il y a un truc qui a merdé quelque part, plus tôt, c'est sûr. Mais l'expérience qu'on a au musée, c'est que Bien sûr que ces classes que l'on a sont amenées par des enseignants qu'ils ont préparés, qui ont travaillé ça en amont. Bien sûr que la question de l'enseignement, elle est dure, elle est de plus en plus dure. Bien sûr qu'il y a des projets idéologiques qui sont à l'œuvre partout dans la société de rupture, de rejet de l'autre. Mais je ne suis pas certain que ce soit un problème de la jeunesse. Et nous, on se rend compte que quand on amène des contenus et qu'il y a des propositions comme ça, les choses se passent bien. Et Charles Delbo est un magnifique vaisseau pour ça, parce que c'est ce que tu esquissais dans ta question, Jean-Luc, il y a un après. C'est-à-dire que Charles Delbo, elle est dans un engagement, même si elle n'a pas été tout à fait encartée au Parti communiste, était membre plutôt davantage des jeunesses communistes, des groupes des intellectuels qui gravitaient autour de ça. Son compagnon qui est fusillé au Mont-Valérien comme otage en mai 1942, lui, c'est un militant, c'est un cadre du PC, du PC stalinien de l'époque. Et donc, Charles Delbo, elle est dans cette... Elle est jusqu'à sa déportation dans cette mouvance-là. À la fin des années 50, elle fait un voyage en tant qu'observatrice pour l'ONU en Union soviétique. Elle revient profondément anti-stalinienne. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a cette force de regard sur l'injustice et sur ce qu'on résume de manière assez impropre, la pensée totalitaire, hein, quand elle observe. Le terme est trop commode pour être juste. Elle va s'engager sur les questions de décolonisation, Charles Delbo. C'est-à-dire qu'elle laisse à Auschwitz une part d'elle, une âme, tu l'as dit, elle meurt en partie à Auschwitz, mais ce qui ne va pas enlever sa capacité à s'indigner, à se révolter, à continuer ce combat pour l'engagement de la justice que vous évoquiez, sur une formation militante qu'elle a eue, mais qu'elle va essayer d'aller chercher ailleurs. Et d'ailleurs, sur la question des guerres qui se profilent, qui est un des extraits dont vous parlez, c'est aussi ça qu'elle a en sous-jacent. Rares sont les parcours qui ont été dans cette dynamique de lumière. Et sur les questions pédagogiques, bien sûr qu'il faut utiliser ces parcours qui traversent, mais sans faire de comparatisme entre les différentes périodes. Et que ce dont elle parle, c'est la déportation à Auschwitz. Et ce qu'il faut expliquer aux jeunes quand ils écoutent ce texte-là, c'est qu'est-ce qu'a été la déportation à Auschwitz. Moi, je suis un défenseur du non-comparatisme. Et que c'est parce qu'on ne compare pas qu'on donne des armes, peut-être, pour aborder des choses qui, somme toute, ne sont pas tout à fait comparables aujourd'hui, mais avec lesquelles on peut s'armer. Mais je crois que la réaction, j'allais dire, vous l'avez dit, des jeunes de 14 ans, c'est des jeunes de 14 ans. S'ils déconnent entre eux, ils déconnent entre eux. Moi, je n'ai pas sentiment d'une génération de gamins de 14 ans qui serait massivement hostile idéologiquement, et que je pense qu'il faut se méfier de ne pas leur imposer des intentionnalités qui sont en fait nos craintes à nous d'adultes, de voir nos égaux en fraternité d'adultes et de citoyens de commettre les actes qui sont aujourd'hui commis et de prononcer les paroles qui sont prononcées. Ménageons la jeunesse et accordons-le le bénéfice de la compréhension.
On va peut-être faire une dernière question, sauf si vous en avez. Oui, je vois madame derrière.
Merci. Moi, je crois qu'il y a quelque chose d'assez parlant quand même durant tout son livre. Alors, je n'ai pas du tout lu ses livres. C'est dans ma wishlist de Noël, grâce à vous. Il y a quand même un rapport à la recherche de la beauté, je trouve, dans sa... Je ne sais pas si elle en reparle après, mais on le voit bien avec cette tulipe qui est magnifique et qui trône au milieu de la mousseline. Mais il y a aussi la beauté lyrique. Elle fait en sorte de se souvenir d'un nombre de poésies. Même moi, aujourd'hui, je ne suis pas capable de me souvenir d'autant de poésies. Donc, elle recherche la beauté du vers, la beauté visuelle. Il y a de la chanson. Est-ce qu'elle continue après cette épreuve? Est-ce qu'elle continue à rechercher la beauté parce qu'elle est partie en mode combattant? Mais est-ce qu'elle arrive à se satisfaire aussi de moments paisibles et de moments beaux?
Alors Antoine, je te vois opiner du chef, mais pour répondre à cette question, il y a besoin d'un artiste plutôt que d'un historien, je pense.
Alors oui, c'est vrai que quand on a choisi les textes, c'était important pour moi la beauté, parce qu'elle le retransmet tellement bien. Tous les poèmes que vous avez pu entendre ce soir, il y en a des centaines dans les livres. Il y en a des centaines. Et ceux-là sont les plus parlants pour nous parce qu'ils touchent quelque chose. Enfin, moi, personnellement, me touche particulièrement. La tulipe, c'est ce moment où aujourd'hui, vous, n'importe qui ici, voit une tulipe, va dire c'est une tulipe. C'est vraiment tout con, mais c'est vrai. À cette époque-là, voir une tulipe, elle a passé 27 mois en déportation. Voir une tulipe, c'était exceptionnel. C'était quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis des années. Donc, nous, on a voulu garder quand même quelque chose de très poétique. C'est pour ça qu'il y a de la danse, c'est pour ça qu'il y a du chant, c'est pour ça qu'il y a de la musique. C'est-à-dire qu'on voulait garder la poésie, parce que Delbo déjà aimait les poètes et était une poétesse. Et ça, je voulais qu'on le voie au plateau et qu'on le sente. J'espère que ça a marché.
Je veux ajouter une petite chose. Je pense que c'est encore même plus loin que la beauté, la beauté de la vie. Ça, c'est un peu tout con à dire comme ça, mais c'est-à-dire qu'elle était... elle était en tant qu'assistante aussi de Louis Jouvet, je pense qu'elle avait un engagement politique, certes, mais un engagement dans l'art, dans quelque chose de plus grand. C'est-à-dire que aussi, on le raconte pas du tout dans le spectacle, mais elle, quand elle est partie à Ravensbrück après Birkenau, le commando de Reisko, où c'était en fait un groupe de travail qui allait dans des champs, elle a monté le malade imaginaire avec ses camarades là-bas. C'est-à-dire qu'elle se souvenait d'absolument toutes les indications de Louis Jouvet qu'il avait joué des années avant au théâtre, où ça ? Avec ses élèves du conservatoire. Elle se souvenait de tout, des intentions, du texte. C'est-à-dire que le malade, là, elle, le misanthrope, elle peut se baser sur un texte. Le malade imaginaire, elle l'avait en tête, comme avec ses poèmes. Donc, avec ses camarades dans les champs, elles ont répété pendant des mois et elles ont joué ce spectacle. Donc en fait, c'est à la recherche de la beauté, mais plus que ça, d'un sens de la vie, je pense.
Vous avez absolument raison quand on regarde les sources. C'est la beauté et c'est la vie. Un autre grand parcours de femme extraordinaire déportée, Germaine Tillon. Que fait Germaine Tillon à Ravensbrück pour mobiliser autour d'elle ses camarades de déportation? Elle crée une opérette qu'elle fait répéter la nuit, c'est le Verfügbar aux Enfers. La question de ces fleurs, moi, deux éléments qui ne sont pas des anecdotes et qui sont très parlants et qui va me permettre aussi de vous dire à quoi nous utilisons dans un musée de la résistance et de la déportation géré par la puissance publique, les deniers publics, c'est-à-dire votre contribution à la solidarité nationale. Eh ben, que fait-on ? On conserve des fleurs ramenées des camps, par exemple. On a récemment exposé au musée un herbier de Janine Messerli, déportée de Toulouse, communiste, elle aussi, qui a cueilli des fleurs de pensée dans le camp de Ravensbrück, qu'elle a caché dans une petite pochette en cuir qu'elle avait réussi à faire rentrer dans le camp, caché dans son sabot et conservé durant toute sa déportation, qu'elle a ramené quand elle est rentrée de déportation. Aujourd'hui, c'est des petites fleurs de pensée séchées que l'on conserve en herbier. Ça me rappelle lorsque je m'occupais de la prison de Montluc à Lyon, une autre rescapée de Ravensbrück, Simone Grandjean, elle aussi aujourd'hui a disparu, qui nous racontait que quand elle a été libérée de Ravensbrück, alors elle le disait avec son accent lyonnais en plus, Simone, elle disait, la première chose que j'ai faite en sortant, je suis allé pisser dans les fleurs. Mais derrière l'aspect amusant, c'est quoi ? On retrouve exactement les deux éléments présents dans les textes que vous avez dit. C'est-à-dire que c'est le rapport au corps, le corps en liberté, le corps au milieu de la vie, et que les fleurs, au moment où c'est le camp de Ravensbrück a été découvert et les femmes emmenées, c'est le printemps. C'est-à-dire que c'est le moment de la floraison et le retour à la liberté, c'est voir qu'en fait, en dehors du camp, la nature, elle a continué à son cycle. Et c'est des éléments qu'on retrouve très présents dans de très nombreux récits de retour de déportation et de sortie du camp, même si, comme le dit Charles Delbo, ils n'en sont pas tout à fait sortis, en tout cas pas complètement.
Alors, la dernière question, puisqu'après, je crois qu'il y a de quoi partager un verre et continuer à discuter, à échanger, à poser des questions. On a vu Charlotte Delbo engagée, résistante, artiste, pleine d'humanité, en engagement politique, puis elle a été aussi une gardienne de la mémoire. Je voulais peut-être qu'on finisse là-dessus, puisque, effectivement, dans les années 70, en 74, elle s'était auparavant déjà opposée à la guerre d'Algérie, elle a été militante de la paix, et elle s'est opposée aux propos négationnistes, entre autres de Forisson, qui commençait à surgir à cette période-là. Alors, je ne sais pas si c'est une question pour l'historien, là, du coup. Est-ce que tu peux juste éclairer ça et les enjeux, peut-être, justement, de cette préservation de mémoire?
Là, on retrouve les militants. On retrouve les acteurs. Enfin, ce sont des gens qui ont survécu aux nazis. Et comme l'avait dit Simone Veil à un moment d'un un de ses meetings, quand elle était candidate aux élections européennes, était perturbée par le Front National. Ils n'allaient pas se laisser marcher sur les pieds par des nazis en culotte courte. Je crois qu'elle dit des... Bon, vous êtes des SS en culotte courte. On est à Toulouse. On est à Toulouse dans une ville où une autre figure qui n'a pas été déportée est dans un engagement semblable. C'est d'ailleurs des intellectuels assez proches. Et qui est une figure dont je trouve que l'on ne parle pas assez à Toulouse, qui est Jean-Pierre Vernant. Très grand résistant, philosophe antiquisan, qui, pareil, fait partie avec Vidal Naquet de cette avant-garde de lutte contre le révisionnisme. Et c'est quelque chose qui nous oblige. Et ce combat-là, on le poursuit avec les activités qui sont les vôtres, sans enlever rien à l'aspect de la création artistique que vous faites. On le fait aussi en conservant des fleurs de pensée dans un obscur musée départemental et en continuant à nous réunir et en essayant peut-être d'en parler autour de nous pour être de plus en plus nombreux autour de ces sujets universels. Mais ce révisionnisme nous regarde droit dans les yeux aujourd'hui encore, c'est certain.
Merci. Alors, avant de remercier tout le monde, je me permets une petite pensée pour une dame qui je suis en train de penser, qui aurait eu toute sa place ce soir. C'est Marie Vasslik, avec qui on avait ici même passé une superbe soirée autour d'une création artistique également avec une pièce de théâtre. On va commencer par remercier déjà Lucille et Laurie pour leur magnifique interprétation. Et ça fait bien. Gaëtan pour sa mise en scène et puis sa présence et toute sa réflexion. Merci Antoine pour cette nouvelle soirée. Merci Amélie et toute l'équipe de l'Espace Roguet. Merci à vous d'avoir été là. Et encore une fois, je vous renvoie au podcast qui sera disponible sur le site de Memaudio, MEM_audio. Que Luis va réaliser à partir des enregistrements qui ont été faits. Je vous dis bonsoir et puis on se retrouve, je crois, à côté pour un petit moment ensemble pour ceux qui veulent prolonger la soirée. Merci à vous.
Memaudio, une mémoire sonore.